France Inter.
Bonjour à toutes et à tous.
你这狂风一直飞到底。
Si, si, c'est pour vous parler d'économie. Ce chant, ces petits cris, c'est un jeune Chinois qui les pousse sur Douyin, le TikTok local. Alors cette trend, ça s'appelle le Dang Niao. On se perche sur la barre de son lit, on a les mains en griffe et on pousse des cris d'oiseaux. Message, je me sens coincé sur ma branche, j'aimerais m'envoler. Cette mode, elle succède au tamping, faire la planche, là on se filmait allongé, et puis au bailan, laisser couler, laisser pourrir, autant de mises en scène virales du découragement. Depuis quelques jours sur les réseaux, les autorités chinoises traquent tous les contenus jugés négatifs et des sanctions sont déjà tombées. On ne sait pas si les oiseaux seront visés, mais peu importe. Leur clou et le bec ne fera pas disparaître le malaise. L'économie chinoise tourne au ralenti. On n'achète plus d'appartements ni de voitures, mais des peluches la boubou. Et les marques d'ailleurs y voient une nouvelle tendance, la consommation émotionnelle. Des petits plaisirs tout de suite et surtout pas cher. Avec le chômage qui grimpe, les chiffres sont sans doute diminuée officiellement, la déprime s'installe, certains diplômés paient même pour faire semblant de bosser dans de fausses entreprises, ça s'appelle les « pretend to work companies ». D'autres préfèrent se réfugier dans la nostalgie avec le hashtag « la beauté des années boom ». Ce sont les années 2000-2010, la Chine qui entre à l'OMC, qui devient l'atelier du monde, les parents habillés de couleurs vives, les coiffures folles, l'optimisme partout. C'était l'époque où en Chine, demain semblait forcément meilleur. Aujourd'hui, la génération Z redoute de vivre moins bien que ses parents. Ce serait la première fois depuis 50 ans.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue dans votre magazine d'économie, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Toute l'équipe n'attendait que vous pour être au complet. Il y a déjà le coproducteur de cette émission, Valentin Pérez, la réalisatrice Céline Hila, Anne-Cécile Perrin, l'attachée de production, au mix Florian Dittre et à la console Jérôme Ragano. L'invité du Mageco, c'est un grand industriel, Henri Poupart-Lafarge, le directeur général d'Alstom. On va avoir une conversation sur l'industrie, l'avenir de l'industrie et puis le train du futur, le train d'aujourd'hui. Et puis gros plan sur l'urgence de trouver des milliards pour notre réseau ferré. Là, vous entendrez le reportage de Luc Chemla. Madame Vieux-Boulot est bien sûr avec nous, fidèle au poste, pour nous raconter les coulisses du monde du travail. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Alors Sandrine, ce matin, une histoire de caméra planquée, pas déclarée, par une grande entreprise très connue.
Oui, on peut risquer gros à planquer des caméras espions dans les locaux. Ça s'est passé à la Samaritaine et je vous raconte ça tout à l'heure.
Alors on vous retrouve juste avant les infos de 10h. Mais tout de suite, le feuilleton du budget ce samedi, le décryptage, c'est avec Éric Heyer. Hello Éric.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous dirigez le département analyse et prévision de l'OFCE, c'est le centre de recherche économique de Sciences Po. Et Patrick Artus est également dans ce studio. Bonjour Patrick.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes conseiller senior chez le gestionnaire d'actifs Osiam. Alors, le Premier ministre n'est favorable ni à l'attaque Zucman, ni à l'abandon des 64 ans, mais va-t-il faire un geste à gauche pour le pouvoir d'achat? Ça a été la conversation toute la semaine, l'idée que le travail ne paie plus. On a entendu dans les cortèges encore ces Français qui expliquent qu'ils n'y arrivent plus. Qu'est-ce que ça signifie exactement en termes économiques? Est-ce qu'on a un problème de salaire? Est-ce qu'on a un problème d'impôts et de taxes? Et que faut-il comprendre des pistes qu'on imagine sur la table? On vous dit tout maintenant.
Ce qu'il faudrait surtout, c'est augmenter les salaires, travailler plus pour gagner plus.
Le but, c'est pas de faire plusieurs sup, c'est d'augmenter le taux horaire du salaire. Les gens travaillent déjà beaucoup, sont fatigués.
Comment mieux vivre de son travail? Le débat est extrêmement complexe, alors que nous avons aussi une protection sociale à financer.
En travaillant, on améliore plus sa vie. Et ça, c'est vrai pour tous les niveaux de revenus.
Antoine Fouché, président du cabinet de conseil Quintet.
Les jeunes qui travaillent aujourd'hui, c'est la première génération qui n'améliore plus sa vie matérielle en travaillant. Donc on a un sujet de rémunération du travail et c'est ça qui nous tire en fait dans la vase. Parce que la rémunération du travail, c'est la promesse républicaine. C'est-à-dire, si tu bosses bien, tu vivras mieux. Et ça, c'est pas vrai.
100 euros que votre patron verse, et ben vous recevez 54 euros seulement sur votre compte en banque avant impôt.
On voit que le net a diminué depuis des dizaines d'années.
Violette Spilbou,
député Ensemble pour la République.
Et aujourd'hui, ce que veulent les Français qui travaillent, c'est que l'effort pèse moins sur eux. Donc cette proposition, eh bien, c'est effectivement une amélioration du net par une baisse des cotisations sociales sur le travail.
Rétablir la prime Macron qui n'a jamais été supprimée, défiscaliser des heures supplémentaires qui sont déjà défiscalisées à 100%. Enfin, on se moque du monde.
Philippe Brun, député, Parti Socialiste.
Si c'est pour attirer la gauche, bah, moi j'appelle ça du marxisme, mais tendance Groucho. On propose de baisser la CSG pour la moitié des Français, entre 1 000 et 2200 euros par mois, pour leur redonner immédiatement du pouvoir d'achat à hauteur de 900 euros par an. Ça, c'est une vraie mesure pour donner du pouvoir d'achat aux gens.
Nous, on n'a jamais été fans de la CSG.
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.
Si on baisse la CSG, il faut la remplacer par des cotisations sociales et remettre en cause les 80 milliards d'exonérations de cotisations sociales qui sont distribuées chaque année et qui sont aujourd'hui des trappes à bas salaire. Ça a été prouvé par de nombreux rapports.
La seule mesure, sur le long terme, il n'y en a qu'une.
Alain Madelin, ancien ministre de l'économie.
C'est la croissance. Seule la croissance est capable de fabriquer de bons salaires. Et donc, toute politique aujourd'hui, quelle qu'elle soit, doit avoir en vue comment je peux avoir des mesures qui peuvent doper la croissance.
Allez, on va plonger dans l'épaisseur du dossier avec nos deux économistes, Patrick Artus et Éric Heyer. Patrick Artus, je me tourne vers vous. D'abord, il faut nous expliquer, le travail ne paie plus. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui ne paie plus? Qui ça concerne? Voilà, qu'est-ce que ça signifie en termes économiques pour vous?
Oui, trois idées, Éric complétera. D'abord, c'est vrai que le coût du travail pour l'employeur est très très supérieur en France au salaire net qui est reçu par le salarié. C'est pratiquement moitié-moitié. Donc quand ça coûte 100 à l'employeur, le salarié récupère 52 en réalité.
Parce que tout part en cotisation.
C'est tous les impôts et les cotisations. C'est l'écart, c'est ce qu'on appelle le coin fiscal. Voilà. En anglais, le tax wedge. Et la France, c'est très haut, ce prélèvement fiscal. Pour l'ensemble des pays de l'OCDE, ce prélèvement est de 35% et pas de presque 50%. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un problème de salaire net. Deuxième sujet qui est vrai, les ménages ou les salariés qui ont des faibles revenus payent énormément sur les consommations obligatoires. Quand on fait la somme des transports, du logement, de l'alimentation, des assurances, pour les 20% de Français en bas de l'échelle des revenus, ça représente plus de 70% du revenu. Et donc, il y a très très peu de revenus libres. Et ça, c'est vrai, on l'entend beaucoup, quoi. Et par contre, ce qui n'est pas vrai, c'est que les revenus de remplacement sont compétitifs par rapport aux revenus d'activité. Si on prend, par exemple, le
SMIC... Alors, attendez, ouais, qu'est-ce que c'est les revenus de remplacement?
Le revenu d'activité, pour un Français peu qualifié, c'est le SMIC. Oui. Le SMIC, c'est exactement 1426 euros net par mois aujourd'hui. Et si ce Français veut... S'il est seul, s'il passe au RSA, il a 647 euros, donc c'est beaucoup moins. S'il a deux enfants et qu'il est tout seul à élever deux enfants, il a 1164 euros, donc c'est toujours substantiellement moins. Et pendant la période où il quitte son emploi et il est au chômage, il a en moyenne 71% de son revenu d'activité. Donc, en réalité, le travail paye par rapport au revenu d'activité, mais il est vrai qu'il ne paye pas dans l'absolu.
Éric Heyer, vous complétez la photo ?
Oui, alors, sur le dernier point, c'est extrêmement important de dire qu'il y a toujours un gain à travailler et pas rester dans l'assistance. Et ça, je renvoie pour des cas types un peu techniques au travail de Guillaume Allègre et Muriel Pucci, et dont une synthèse est dans l'excellent repère sur l'économie française 2026 qui vient de sortir à la découverte. Et donc ça, il faut bien le rappeler. Le travail paye. D'accord. Ensuite...
C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que tous les discours qu'on entend sur ceux qui pourraient choisir, guillemets, ouais, l'assistanat parce qu'ils vivraient aussi bien,
non,
c'est faux.
Non,
le travail,
ça,
oui, ouais,
oui,
le travail
ça,
paye
oui,
encore.
On a toujours intérêt, alors ça c'est en plus que des gains monétaires, il y a aussi des gains autres que monétaires à travailler en termes d'intégration dans la société. Ensuite, effectivement... Quand vous travaillez, vous n'êtes pas sûr de ne pas être dans la pauvreté. C'est ça l'ennui. C'est qu'effectivement, on avait en France des travailleurs pauvres plus bas que dans l'ensemble des pays européens. Et maintenant, on est dans la moyenne. Donc effectivement, quand le taux de pauvreté a fortement augmenté, 2023, on est à un record, 15,4% de pauvreté. Ben vous avez quand même 6,6% des salariés qui sont pauvres. Et quand on prend les indépendants, on est quasiment à 20% d'indépendants, donc des auto-entrepreneurs. Vous voyez tous ces boulots un peu ubérisés qui sont pauvres. Donc oui, effectivement, vous pouvez être travailleurs et pauvres. Ça, c'est une nouveauté en France, et donc ça, il va falloir lutter. Et dernièrement, et le dernier point, c'est qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, le travail paye moins qu'il y a 3-4 ans, dans le sens où le pouvoir d'achat de votre salaire, en moyenne, a baissé de 2,2. C'est-à-dire qu'il y a une période inflationniste, il y a eu 15% d'inflation cumulée entre 2021 et aujourd'hui, les salaires n'ont progressé en moyenne que de 13%. Donc oui, on a perdu en pouvoir d'achat, et donc oui, il y a bien une revendication à avoir, mais attention, il faut bien se focaliser, c'est le travail paye, mais moins qu'avant, et ça ne couvre pas sur les risques de pauvreté.
Alors, sur les revendications à avoir, est-ce qu'il faut les avoir ? Est-ce qu'il faut se tourner vers l'État ? Est-ce qu'il faut se tourner vers les entreprises ? Si le travail, Patrick Artus, paie moins aujourd'hui, est-ce que ce sont des choix conscients ? Parce que quand vous nous dites, c'est parce qu'il y a les cotisations, les impôts, bon, bah, c'est le financement de la protection sociale, tout ça aussi.
Oui, je voudrais juste prendre 10 secondes pour compléter ce qu'a dit Eric. Les salaires, le pouvoir d'achat des salaires a baissé, mais il a baissé comme la productivité. Mmh. Et donc, en fait, on a fait un arbitrage favorable à l'emploi et défavorable au salaire des personnes qui avaient un emploi. Le salaire réel, le pouvoir d'achat des salaires a baissé pour les gens qui avaient un emploi, mais on a créé 6% d'emplois depuis 6% d'emplois en plus depuis 2019. Et donc, en réalité, il faut aussi s'intéresser à cette composante. Il y a les salariés qui avaient un emploi ont perdu du pouvoir d'achat, mais on a fait entrer beaucoup de gens sur le marché du travail. Donc c'est ambivalent, quoi. Alors sur votre question, il y a plein de pistes. Il y a plein de pistes pour corriger.
Allez-y, on va commencer par la première. Il y a cette piste de, si on voulait corriger, on pourrait baisser les cotisations. Et on commence par celle-ci, on en ouvrira d'autres après.
Oui, la piste de baisse des cotisations, il faut compenser. Alors, le MEDEF propose que ce soit les cotisations patronales, donc qui marchent pas. Donc il s'agit des cotisations salariales, et on pourrait baisser les cotisations salariales et augmenter soit la CSG, soit la TVA, parce que ce sont des impôts avec une assiette beaucoup plus large que les salaires. Donc vous faites payer les retraités, dans le cas de la TVA, les importations, vous faites payer les revenus du capital, ce qui est très important.
Éric Heyer, est-ce que c'est une bonne piste, et est-ce que vous avez une préférence entre CSG et TVA ? C'est pas la même assiette.
Oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, les cotisations, ça paye une grosse partie de notre protection sociale. Or, une partie de cette protection sociale, la santé, la famille, c'est universel, c'est pas contributif. Donc, il n'y a aucun raisonnement logique à le faire payer par les cotisations. Donc, il faut le faire payer par un impôt, et donc il faut transférer toutes les cotisations famille et santé vers un impôt. Moi, je préfère la CSG à la TVA, parce que, vous voyez, alors, d'abord, la CSG, ça, on va toucher tous les revenus, puisque tous les revenus, toutes les personnes ont droit à la famille et à la santé, ben voilà, tout le monde va y contribuer, et donc ça va donner du pouvoir d'achat direct aux salariés, et ça, on s'assure que ça donne du pouvoir direct aux salariés, alors que la TVA, ça part de l'idée que l'on va faire payer notre modèle social par les étrangers. Pourquoi ? Vous voyez, c'est un choix que l'on fait, nous, en France. Donc, pourquoi demander aux Italiens, aux Espagnols de payer notre modèle social ? Et deux, ça va faire de la compétitivité entre nous, entre pays européens. Au moment où on est en pleine guerre commerciale, je ne crois pas que ce soit le bon moment de le faire.
Patrick Artus.
Non. On sait que la différence entre TVA et CSG, c'est que quand on augmente la TVA pour financer une baisse de cotisation sociale, c'est équivalent à une dévaluation. Mmh. Et donc, effectivement, c'est agressif vis-à-vis des autres pays de l'euro. Quoi. Je veux dire, je peux adhérer à l'argument d'Éric.
Est-ce qu'il y a... Oui.
Alors, on peut peut-être passer à d'autres...
Allez-y, je vous sens trépigner.
Oui. Alors, non, il y a les propositions d'Antoine Fouché, qui a écrit ce livre à
qu'on
succès.
Qu'on a entendu dans le ZAP.
Et donc, c'est faire payer les salariés, les retraités, faire payer les retraités.
Justement pour soulager les salariés.
Oui. Bon, alors, est-ce que...
Mais comment ?
Vous avez des pistes. Les deux pistes qui sont les plus avancées, c'est de supprimer les 10% de frais professionnels dont bénéficient les retraités, et puis de sous-indexer légèrement les retraites. Alors, on peut faire un calcul. La démographie va augmenter, à système inchangé, de 20% la masse des retraites d'ici 40 ans. Et donc, il faudrait économiser 40 ans seulement 20% en 40 ans des retraites, ça veut dire sous-indexer d'un demi-point de par an. Mmh. Hein, de faire augmenter les retraites d'un demi-point de moins que l'inflation. C'est pas monstrueux comme effet négatif de pouvoir d'achat sur
donc,
les retraités.
Vous seriez pour faire contribuer les retraités, Eric Heyer, est-ce que c'était dans le plan Bayrou, c'était dans le PLF, oui. On commençait à vouloir faire ponctionner les retraités.
Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a quand même une conjoncture aujourd'hui, enfin une conjoncture qui va durer pendant 5 ans, où on va demander des efforts aux Français pendant 5 ans à peu près à hauteur de 120 milliards. Donc que dans cette facture de 120 milliards qu'on dise que les retraités doivent y contribuer, oui, pourquoi ? Parce que c'est la contrepartie de toutes les aides que l'on a pu mettre en place au moment du quoi qu'il en coûte, au moment du bouclier énergétique où tout le monde a bénéficié de ces aides. Donc c'est normal que tout le monde y participe. Donc de ce point de vue-là, dire les retraités, vous avez votre propre part, c'est normal.
Mais ça, c'est pour le déficit.
Mais voilà, c'est pour le déficit. Ensuite, dire, est-ce que aujourd'hui, et ça, je serais en opposition avec Antoine Fouché, dire, mais les retraités, ce sont des rentiers parce qu'ils touchent une retraite. Non. Vous voyez, la retraite, c'est quelque part la continuité de leur salaire. Quand ils touchaient un salaire, une partie est partie en cotisation pour leur donner des droits. Donc, c'est pas du tout des rentiers de ce point de vue-là. La rente, c'est quand vous vivez de biens immobiliers ou d'actifs financiers qui ont pris de la valeur. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Et je ne crois pas que stigmatiser les retraités au moment des actifs, non. Donc, je crois que c'est une mauvaise piste de ce point de vue-là. Et la CSG, si vous transférez des cotisations vers la CSG, vous faites contribuer les retraités de toute manière. Donc, c'est beaucoup mieux le faire de ce point de vue-là.
Alors, il nous reste une minute. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez des pistes, je vais les lister, qui seraient dans l'esprit de Sébastien Lecornu. On a une défiscalisation de cotisations sociales sur les heures sup, une réduction de l'impôt sur le revenu pour les couples payés légèrement au-dessus du SMIC, on a le rétablissement de la prime Macron. Eric,
c'est du bricolage. Mmh. C'est du bricolage et entre nous, sur les heures supplémentaires, ça ne sert à rien. Vous voyez, les heures supplémentaires, les défiscaliser, ça a du sens lorsque vous êtes dans une conjoncture qui est bonne, que les entreprises ont des carnets de commandes pleins à craquer, mais qui ont des difficultés de recrutement. Pourquoi pas ? Mais alors, dans la conjoncture actuelle, c'est une hérésie de le faire, ça va coûter très cher. Et donc, toutes ces mesures-là, allez, non, ça c'est du bricolage. Il faut aller vers des mesures beaucoup plus structurelles. Donc, soit les pistes qu'on vient d'évoquer, soit vous avez une piste même qui permet de donner du pouvoir d'achat aux salariés sans coûter, c'est une politique du logement. Si vous permettez aux salariés d'être bien logés sans le mal logement, ça serait mieux que tout.
Éric Heyer et Patrick Artus qui trépignent encore, mais le temps avance. Merci, vous avez fait le débat dont n'arrête pas l'écho.
La déindustrialisation est une
maintenant qu'on y a cette économie.
Et l'écho comme elle tourne ailleurs, c'est notre séquence l'écho en VO. Ce matin, nous parlons industrie de défense en Allemagne.
Hinter der Bezeichnung Future Combat Air System, kurz FCAS, steckt nicht weniger als das größte geplante europäische Rüstungsprojekt.
Allez, je traduis. Derrière le nom Future Combat Air System, on trouve le plus grand projet d'armement européen. Voilà ce qu'expliquent nos confrères de Die Welt, le grand quotidien allemand, dans une petite vidéo sur leur site au sujet de ce programme de coopération entre l'Allemagne, la France et l'Espagne. Mais pour cet avion de chasse du futur, l'horizon s'est encore obscurci. Bonjour Nathalie Versieux.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes correspondante de France Inter en Allemagne. Alors, nous Français, on parle plutôt du SCAF pour système de combat aérien du futur. C'est un projet qui représente à la fois l'accélération d'une industrie de défense européenne et puis le désir de souveraineté des 27, mais qui est, une fois encore, en danger. Il y a trop de tensions entre les industriels, Nathalie. Paris et Berlin ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde.
Oui, effectivement, le projet était prévu à l'horizon 2040. La date est importante pour la dissuasion nucléaire française. Pour ça, il faudrait passer à la phase 2 du projet d'ici la fin de l'année, ce qui semble de plus en plus compromis. Résultat, Paris et Berlin font monter la pression. Friedrich Merz s'impatiente désormais ouvertement. Il a même commencé à chercher d'autres partenaires, tandis que Paris évoque la possibilité de faire cavalier seul.
Et vu d'Allemagne, Nathalie, tout cela, c'est la faute de l'industriel français Dassault.
Oui, Dassault, un groupe privé vivant de commandes publiques, est perçu à Berlin comme un partenaire difficile sur lequel Paris n'a pas prise. Dassault veut désormais être leader sur un projet qui était conçu à l'origine comme étant un partenariat à égalité, ça hérisse les Allemands, et puis les besoins sont différents. La France, par exemple, veut un appareil qui puisse se poser sur ses porte-avions, donc plus petit. Les Allemands voudraient des avions dotés de réservoirs importants, plus lourds, et puis les Français ont peur du poids de l'administration allemande. À Berlin, ce n'est pas Friedrich Merz qui décide des projets de défense, mais le Bundestag, une institution souveraine jugée imprévisible sur l'armement.
Nathalie Versu avec nous de Berlin. (Musique) 9h34 dans quelques secondes sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, notre invité sera dans le studio 521. C'est un géant industriel numéro 2 mondial du matériel roulant, ça veut dire les trains, les métros, les trams. Le PDG d'Alstom, le directeur général d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, est notre invité. Nous allons donc parler de trains, la grande vitesse, les petites lignes, les trains du quotidien. Quel avenir pour le ferroviaire français? Les infrastructures vieillissent, le montant des investissements pour les entretenir devra donc augmenter. Alors de combien, c'est déjà tout un débat. En tout cas, sinon, bien assez rapidement, plusieurs petites lignes de train sont menacées de disparition. Prenez l'exemple de la célèbre ligne des Hirondelles, c'est dans le Haut-Jura, elle est nichée dans les montagnes, entre Saint-Claude et Andelot. Imaginez les rames serpentées entre les sapins vers l'été, blanc l'hiver. La ligne est en sursis aujourd'hui, les élus locaux et les voyageurs se démènent pour la conserver. Qui peut financer? Eh bien, nous partons sur place ce matin avec notre reporter. Les trains arrivent, repartent et attention, voici Luc Chemla et le micro du MyGecko qui entre en gare.
Ça y est, me voilà arrivé à Saint-Claude, en plein milieu des montagnes. Je m'approche d'ailleurs de la toute petite gare, dans un cadre bucolique.
Bonjour, Kevin Taboada de La Fuente. Je suis président de la FNOT Arc Jurassien, qui représente les usagers de transport public sur le massif jurassien. Alors, juste en face, c'est le Mont Chabot qu'on voit. C'est un cadre magnifique qui est lieu au Jura. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent s'installer ici, mais généralement qui renoncent parce que, tout simplement, ils entendent que la ligne des Hirondelles risque d'être menacée.
Alors, marchons un petit peu.
Là où nous voyons effectivement que les infrastructures ne sont pas en excellente forme. Donc là, on voit que les traverses commencent un peu à s'écarter. Moi, l'état de la voie comme ça, je l'ai toujours connu comme ça depuis que j'habite ici. Donc,
Et ça fait combien de temps?
28 ans.
Et voilà monsieur le maire qui arrive justement à la gare.
Bien écoutez, bonjour, Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, conseiller départemental. Moi, ce que je ressens, c'est un véritable sentiment de scandale à la simple idée de la fermer. C'est même pas concevable, nous sommes un territoire très enclavé, nous nous battons contre cet enclavement. Alors on pense à la fermer, pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'entretien, mais qui ne l'a pas entretenue? L'État n'a pas fait d'entretien depuis 40 ans, et aujourd'hui on lève les bras au ciel en disant « mais c'est trop tard, faut fermer, on peut pas, c'est honteux ». Et qui va payer aujourd'hui? Je sais déjà que des étudiants abandonneront leurs études parce qu'ils n'auront pas les moyens d'aller à Besançon ou à Dijon en ville universitaire. Quand on dit « il y a pour 90 millions », ben on ne demande pas à ce qu'on mette 90 millions sur la table. La région a su trouver 50 millions 2 ans de suite pour la ligne des horlogers entre Besançon et la Suisse, sur à peu près la même distance, même pas. Je dis que quand on veut, on peut.
Justement, de retour à Paris, j'arrive à la gare de Lyon, où me rejoint, entre deux rendez-vous, le président de la région Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme Durin, pointe, lui, la défaillance de l'État.
C'est un vrai dilemme, parce que de toute façon, l'argent, on ne l'a pas. On ne peut pas payer à nous seuls l'ensemble des travaux.
Et l'État, qui est détenteur du patrimoine, ne prend pas sa juste part dans le financement de ses travaux. On a des rails de 1905 et des traverses de 1927. Donc on voit bien qu'il y a un déficit d'entretien et de maintenance qui est très ancien. Il y a 5 petites lignes à l'échelle régionale qui sont concernées par ces travaux. Et le besoin global de travaux, c'est de l'ordre de 500 millions d'euros d'ici 2035. Donc vous voyez bien qu'une région à elle seule, ce sont des sommes qui sont inatteignables. Donc forcément, l'arbitrage est à opérer entre des zones où il y a beaucoup de monde et où la pression est très très forte, et certains territoires qui voient la fréquentation baisser. Et en bonne gestion de l'argent public, on est vraiment convoqué à se poser cette question-là.
La ligne des Hirondelles fait partie des 7000 km de petites lignes ouvertes à la circulation qu'on appelle des dessertes fines du territoire. Elles sont financées par une région seule ou avec l'aide de l'État. Le reste du réseau, appelé structurant, ce sont 17000 km qui représentent les lignes principales. Elles concentrent 90% du trafic et leur entretien est assuré par SNCF Réseau. Dans un rapport publié en mai, le groupe ferroviaire alerte. Faute d'investissements supplémentaires pour ces infrastructures, la pérennité et la performance du réseau structurant sont menacées.
Bonjour, je suis Olivier Bancel, je suis directeur général client et exploitation au sein de SNCF Réseau. Nous avons une trajectoire qui est sécurisée jusqu'en 2027 et nous avons pris des décisions qui nous permettent d'engager des contrats et des moyens qui nous préparent en 2028. Nous avons des grosses opérations de maintenance, des grands travaux de régénération, donc de modernisation lourde. C'est à peu près 3,2 milliards par an. Donc nous sommes en croissance de régénération sur ce réseau. Et s'y ajoutent des projets de développement ou des projets cofinancés. Pour résumer, nous sommes à 6 milliards à peu près de travaux par an. À peu près 1500, 1600 très grosses opérations annuellement. Donc ce sont des volumes à peu près jamais atteints. Après, le groupe, effectivement, a une contribution pour démarrer cette montée en puissance. Et ensuite, il faut surtout arriver à établir ce régime de croisière à partir de 2028, qui est tout financement confondu. Nous sommes à plus 1,5 milliard par rapport au régime actuel.
Ce 1,5 milliard d'investissements supplémentaires par an que la SNCF réclamait a été validé par le gouvernement de François Bayrou en juillet. Mais où trouver une telle somme ? Au printemps, Ambition France Transport, une grande conférence qui a réuni pendant 3 mois des gestionnaires de réseaux, des économistes ou encore des associations d'usagers, a planché sur la question. Option privilégiée, utiliser les bénéfices des autoroutes. Je retrouve celui qui a supervisé ces réflexions, l'ancien ministre Dominique Bussereau, dans un café du 7e arrondissement de Paris, juste devant le ministère des Transports.
Il faut essayer de récupérer tout ce qui vient du domaine des transports d'abord vers le transport. Au lieu que ça parte dans le puits sans fond des budgets du ministère des Finances à Bercy, il faut trouver un moyen de réaffecter ça au secteur des transports. Ensuite, plus précisément sur les autoroutes, elles ont été privatisées à la va-vite et aujourd'hui, les concessions vont s'achever entre 2031 et 2036. Donc, la conférence a proposé de manière unanime de continuer à faire des concessions parce que la gratuité n'est pas acceptable, mais que ces concessions peuvent être un peu plus courtes, réorganisées, une partie des bénéfices en fin de parcours aille au secteur des transports. Nous souhaitons que l'argent issu de ces concessions, une fois que les travaux sont faits pour l'entretien de l'autoroute, les impôts payés à l'État, nous pensons qu'on peut dégager à partir de 2031-2036 jusqu'à 2,5 milliards, 3 milliards d'euros par an qui aillent à l'ensemble du secteur des transports, et ça peut être le transport ferroviaire. Aujourd'hui, tous les moyens existent dans la loi. Depuis 2009, on peut faire du péage urbain. Par exemple, la région Grand Est, qui a des embarras de circulation à la frontière entre le Grand Est et le Luxembourg et l'Allemagne, va mettre en place une écotaxe locale. Au passage, si on n'avait pas eu la bêtise de stopper l'écotaxe avant 2017, on aurait aujourd'hui au minimum 6 à 7 milliards par an qui seraient affectés au secteur des transports. On n'aurait pas eu besoin de faire de conférences, on ne s'interrogerait pas sur l'avenir de la ligne des Hirondelles et on aurait l'argent nécessaire pour rénover nos infrastructures.
1,5 milliard de plus chaque année pour entretenir le réseau ferroviaire. Cette somme sera-t-elle maintenue par le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu ? Et d'abord, est-elle au moins suffisante ? Je suis allé poser ces questions à Patricia Perennes. Elle est économiste des transports chez Transmission, un cabinet de conseil qui accompagne des acteurs publics.
C'est pas suffisant par rapport à la ligne des Hirondelles dont on parlait. Elle n'est pas concernée par les 1,5 milliard en fait. Il y a ce contrat entre l'État et SNCF Réseau qui dit l'État donne tant d'argent et SNCF Réseau entretient ça. Et Réseau dit depuis plusieurs années, mais en fait, l'argent que donne l'État, ça suffit même pas pour ces lignes structurantes. En fait, ils ont eux-mêmes refait une catégorisation en 3 niveaux, celle qu'on va vraiment garder. Celle qu'on va garder, mais peut-être qu'on ira moins vite, parce que ça sera comme une route qui a un peu de nid de poule. Et puis celle que, si on ne rajoute pas 1 milliard, on va les fermer aussi. Voilà. Par contre, si les 1,5 milliard sont effectivement mis en place, ce qu'a dit Jean-Pierre Farandou, c'est que dans ce cas-là, on pourra garder l'ensemble du réseau structurant. Donc c'est vrai que c'est 1,5 milliard, c'est même pas pour aller chercher la ligne des hirondelles. C'est pour s'assurer qu'on va garder le Nantes-Lyon, le Paris-Toulouse. Voilà, c'est pour des lignes qui sont déjà plus importantes, en fait.
Est-ce qu'il y a des solutions, justement ?
S'il y avait une solution magique et il fallait juste se mettre à 10 dans une pièce et y réfléchir, enfin, ils l'auraient trouvé. Je veux dire, ils ont fait Ambition France Transport, il y a quand même pas mal d'experts qui sont intervenus. Non, il n'y a pas de solution facile. À un moment donné, c'est vraiment un choix politique de dire, est-ce que la priorité financière, on la met sur ces lignes-là pour... pas beaucoup de gens, mais pour un symbole, pour rattacher les territoires ruraux. Si c'est la priorité, l'argent, il faudra le chercher quelque part, il faudra assumer politiquement les bonnets rouges, les gilets jaunes, etc. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc tant qu'on n'a pas de volonté politique, c'est pas de yaka, faucon, il faudrait réfléchir à ça. J'entends souvent, oui, il y a 1,5 milliard, ça a été voté. Non, ça a été déclaré dans Ambition France Transport, on attend la loi. Parce que tant que c'est pas voté, c'est des promesses, quoi.
Les petites lignes menacées, le besoin d'entretien, urgence sur le réseau ferroviaire français, c'était le reportage de Luc Chemla.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et on continue la réflexion avec notre invité. Bonjour et bienvenue Henri Poupard-Lafarge.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général d'Alstom, un géant du ferroviaire. Deuxième mondial, plus de 18 milliards de chiffre d'affaires, 86 000 salariés dans le monde. Combien en France ?
12 000 en France.
12 000. Alors vous avez écouté avec nous ce reportage. Je vais d'abord solliciter votre œil d'expert, puisque je crois que vous opérez dans une soixantaine de pays. Là, on est un peu acculé, la SNCF, les usagers, face à ces milliards qu'il faudrait trouver pour le réseau. Dites-nous pourquoi on en est là en France. Est-ce qu'on a raté quelque chose ces dernières années dans la recherche de financement ?
Alors, d'abord, on a raté quelque chose en termes d'investissement. Ça, c'est sûr. Ça date pas d'hier, j'allais dire, qu'on sous-investit dans le réseau ferroviaire. Pour donner une image, en Europe, puisque vous parlez de différents pays, on est parmi les deux mauvais élèves. Entre l'Allemagne et nous sommes les deux pays qui investissons le moins dans notre réseau ferroviaire, dans une proportion de 1 à 4, par exemple, par rapport aux pays comme la Suisse, l'Autriche, qui, eux, investissent massivement dans leur infrastructure. Et ça a été dit dans le reportage, les lignes se dégradent au fur et à mesure. Et évidemment, plus on tarde dans l'entretien, plus on tarde dans l'investissement, plus ça coûtera cher. C'est en quelque sorte, j'allais dire, presque une dette qu'on est en train de léguer aux futures générations. Une dette d'ailleurs qui porte d'intérêts très élevés, parce que chaque année qui passe va augmenter non seulement le besoin, mais de manière exponentielle, parce qu'on sait très bien que quand quelque chose commence à se dégrader, ça se dégrade de plus en plus vite. Donc oui, ça fait...
Mais est-ce qu'il y a une recette ? Il n'y a pas de recette magique ? Là, dans le reportage, on parlait de l'écotaxe, il y a eu un moment où ça aurait pu être un choix politique.
Oui, absolument, il y a eu un moment clé, en fait, dans cette histoire-là, qui a été la mise en place, vous savez, de l'agence ferroviaire des infrastructures, de financement des infrastructures terrestres, qui était un plan qui marchait bien et qui, effectivement, devait être financé par l'écotaxe, qui, finalement, l'écotaxe est tombée. Le financement de l'AFTID, donc, est tombé aussi. Et depuis, on n'a jamais réussi à retomber sur nos pieds et on cherche, comme ça a été dit très, très bien dans votre reportage, désespérément des milliards.
Alors, en revanche, pour l'industriel que vous êtes, là, la période, elle est plutôt dorée, parce que si on n'investit pas dans le réseau, on renouvelle cependant beaucoup le ferroviaire, le matériel roulant.
Ah oui, alors, on vit une période assez extraordinaire d'un point de vue de l'investissement dans le matériel roulant en France. Si je regarde un peu les cinq dernières années, on a développé pas moins de 8 nouveaux matériels. On a développé un nouveau tramway pour Paris, on a développé 4 métro, 2 pour le Grand Paris, les 2 pour le réseau de la RATP, le TGV, 2 RER. Donc nous avons développé énormément de matériel parce qu'il y a cette volonté de renouvellement du matériel qui est partagée donc par la région Île-de-France et par la SNCF d'une manière générale. Et puis il y a cet engouement pour le volume. C'est-à-dire que le trafic passager augmente énormément en France, que ce soit dans les grandes lignes, ou dans les réseaux urbains.
Vos carnets de commandes sont pleins. Je crois que vous avez plus de 100 milliards de commandes dans vos livres.
Alors, exactement, vous avez rappelé, on est présent partout dans le monde. Et ce phénomène n'est pas qu'un phénomène français. Là, il a été particulièrement prégnant en France. Hein, parce que d'habitude, on développe sur une période de 5 ans que 1, 2 ou 3. Donc, en développer 8 en 5 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est vrai dans beaucoup de pays dans le monde. Donc oui, on a un carnet de commandes de près de 100 milliards d'euros. Très réparti, parce que, vous savez, on est présent sur tous les continents, on est présent sur tous les grands marchés.
Mmh. On va en parler.
Et que ça soit, je crois qu'on va en parler, aux États-Unis, que ça soit en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Australie, enfin... pas égrener la liste des commandes que nous avons eues, mais il y en a sur tous les continents.
Alors, si je reste en France, quand même, question de calendrier, Henri Poupart-Lafarge, beaucoup de désirs de train, de rames, de métro, de train, mais il y a des retards dans la production. Retard pour le TGV-M, qui a été commandé en 2018 et qui doit, dites-moi si c'est vrai, rouler début 2026. Retard pour le RERB, qu'est-ce que c'est ? Il y a un problème d'outils, d'usines, d'encombrement ?
Alors, non, pour être un peu plus précis, il n'y a pas de retard dans la production. C'est le temps de développement qui est plus long que ce qu'on espérait. Alors, pour reprendre les mots...
Développement, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que le temps, au moment où on nous lance la commande, jusqu'à l'arrivée du premier train. Et ce temps de développement, d'ailleurs, ça peut paraître étonnant, hein, mais il est divisé en deux, entre le vrai développement du train, ce qu'il faut pour développer le train physiquement, et puis le temps des essais, de la certification, de l'homologation, qui est aussi long que celui qu'il faut pour développer le train. Et tous les programmes que je décrivais tout à l'heure, les 8 programmes que je décrivais tout à l'heure, sont tous développés. Certains rentrent en phase de test, y compris le RERB dont vous parlez, il rentre en phase de test. Le TGV finit sa phase de test. Alors oui, ça a été long. Peut-être que les calendriers, pour reprendre les mots de Valérie Pécresse elle-même, étaient assez irréalistes au départ, c'est vrai. Quand on compare le temps de développement...
La faute à qui ? La faute aux politiques ou à l'industriel ?
Oui, je ne suis pas là pour déterminer la qualité des uns et des autres. Ce que je dis par là, c'est que quand on compare ces temps de développement avec ce qu'on constate à l'étranger, en Europe par exemple, ce sont des développements très similaires. Alors maintenant, où on en est pour votre question précise sur le TGV, on est vraiment dans la toute dernière ligne droite. Hein. Les derniers tests, même certifiants, ont été faits. Donc on en est à l'élaboration des dossiers administratifs. Mais même cela... Ça prend 6 mois. Il y a 6 mois, une fois que le train a fait tous ses tests, ne serait-ce que pour l'analyse administrative des résultats des tests.
Donc début 2026, ça veut dire qu'il ne roule pas en janvier quand même. Si vous me dites que ça prend encore 6 mois.
C'est-à-dire qu'il ne roulera pas en janvier, non. Mais il roulera, ça c'est à la SNCF, bien sûr, de vous dire précisément quelle sera la date dans laquelle il roulera.
Une question de curiosité, parce que vous nous fabriquez les trains de l'avenir. Alors c'est quoi le train du futur ? À quoi faut-il s'attendre ? La première image moi, qui me vient, c'est que vous testez des trains sans conducteur. Est-ce qu'on va avoir des trains sans conducteur sur la planète ou en France même ? Est-ce qu'on va avoir des trains qui rouleront encore plus vite ? Est-ce qu'on va avoir des trains électriques à hydrogène ? À quoi il faut qu'on s'attende avec vous ?
Alors, le train du futur, c'est multifacette. Il y a pour le passager, ça veut dire un train beaucoup plus confortable, évidemment, un train beaucoup plus sûr, un train évidemment beaucoup plus connecté, et on voit ça jour après jour. Pour le passager, c'est aussi plus de fréquences. Quand nous modernisons, par exemple, la ligne Paris-Lyon, on passe de 13 trains à l'heure à 16 trains à l'heure. On augmente, alors ça vous l'avez parlé tout à l'heure, les TGV on augmente le nombre de places de 20%. Donc on va augmenter la capacité de Paris-Lyon de 40%. Donc ça veut dire vraiment beaucoup plus de capacité à vendre des billets et à augmenter les fréquences pour les passagers.
Donc c'est des trains plus longs, plus gros, plus comment ?
Non, c'est des trains plus efficaces, qui consomment moins d'énergie. Ça c'est très clair, donc le TGVM consomme 20% de moins d'énergie que la génération précédente. C'est des trains évidemment plus connectés, autonomes, vous avez raison. On a déjà testé des locomotives en France sans conducteur. Les métros sont évidemment sans conducteur, tous les nouveaux métros sont sans conducteur, mais dans les trains, on a testé des trains régionaux en Allemagne sans conducteur, donc des locomotives en France sans conducteur.
Et ça va se développer, ça c'est le choix des opérateurs
Alors, il y a deux étapes d'ailleurs, il y a les trains automatiques, qui permettent d'économiser beaucoup d'énergie, parce qu'une machine conduit, si je puis dire, beaucoup plus efficacement un train que peut le faire un conducteur. Puis après, il y a le train autonome, donc sans conducteur, qui permet beaucoup plus de flexibilité. Ce n'est pas pour le salaire du conducteur, c'est pour gagner de la flexibilité en exploitation, pour pouvoir faire sortir les trains quand on veut, les faire rentrer quand on veut, etc. Ça arrivera.
Ça arrivera bientôt ?
Ça arrivera le plus tôt possible, je ne pense pas bientôt, mais le plus tôt possible.
Henri Poupart-Lafarge, vous l'avez mentionné, un gros marché aux États-Unis. Vous avez remporté 2 appels d'offres dernièrement, ça se compte en milliards. Il y a quelque chose d'étonnant. Comment est-ce que vous passez au travers du protectionnisme de Donald Trump ? C'est quoi la recette d'un industriel français ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait plus de 10 ans, entre 10 et 15 ans, que nous développons une stratégie qu'on peut appeler multilocale, d'implantation dans tous les gros marchés. Quand nous vendons un train en Inde, il est développé, fabriqué entièrement en Inde. Quand nous développons ou vendons un train aux États-Unis, il est développé, fabriqué aux États-Unis. Nous faisons travailler plus de 180 grands fournisseurs dans 29 États américains. Donc nous sommes très américains aux États-Unis.
Ce sont les plus coriaces, non, aux États-Unis. Il faut que 90% du train soit fabriqué
aux
États-Unis.
Alors, il y a un Buy American Act, ouais. Effectivement, 95%. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ensemble du train qui doit être fabriqué aux États-Unis. Mais ça, c'est une tendance qui est assez longue aux États-Unis, mais qui se multiplie. Hein. Nous avons Make in India, qui est un peu l'équivalent. Le Canada, il y a 15 jours, a passé un Buy Canadian Act. Donc, c'est une tendance que nous avons vue dans nos métiers. Et c'est pour ça qu'on a développé cette stratégie d'être implanté, que ce soit en Australie. Quand on développe un train en Australie, on le développe en Australie, on le fabrique en Australie. C'est un peu une règle du jeu dans notre métier. Et c'est ça qui fait la force d'Alstom, fondamentalement.
Et en Europe ?
Alors, en Europe... Tous les trains que nous vendons en Europe sont évidemment fabriqués en Europe et développés en Europe. Il n'y a pas l'utilisation, d'ailleurs, il y a un Buy European Act qui existe, il y a un fameux article 83 qui permettrait aux entités publiques d'imposer 50% de fabrication européenne. En général, elles ne l'utilisent pas, mais il faut reconnaître que pour ce qui est de notre industrie, tous nous et nos concurrents fabriquons en Europe pour l'Europe.
Est-ce que vous voyez apparaître, on a vu ça pour les pneus, on a vu ça pour les voitures, est-ce que, Henri Poupart-Lafarge, vous voyez apparaître un concurrent chinois ? Ça, c'est le numéro un mondial, finalement, le constructeur chinois. Est-ce que vous le voyez sur le marché européen arriver ? Ou est-ce que c'est encore du fantasme ?
Alors, vous l'avez rappelé, donc CRRC, qui est légèrement plus grand que nous, parce que vous avez rappelé, on fait 18 milliards de chiffre d'affaires, eux font peut-être 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est assez équivalent en taille au numéro 1 chinois. On le voit assez peu arriver en Europe. L'Europe a des exigences techniques et de qualité, d'homologation, de certification, j'en parlais, qu'il a du mal à atteindre. En revanche, on le voit apparaître dans beaucoup de pays en dehors de l'Europe, comme vous l'avez dit, moi je ne suis pas intéressé uniquement par l'Europe, et c'est sûr qu'en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, et d'ailleurs c'est pour ça que l'Europe a lancé un programme, vous savez, qui s'appelle Global Gateway, qui vise quand même, pas simplement à protéger, c'est bien de protéger le marché européen, mais il faut être aussi un peu plus offensif dans les autres continents. On ne va pas laisser l'ensemble de la planète en dehors du marché européen, dans les mains d'acteurs non européens. Il faut aussi être plus agressif, si je puis dire, dans le bon sens du terme, sur les autres marchés.
Une dernière question, c'est sur votre poste, parce que vous avez annoncé en mai dernier que vous n'alliez pas briguer un quatrième mandat et que vous restez en poste jusqu'à temps, tout ça est totalement ouvert, que Alstom trouve un remplaçant. Donc question, est-ce que la succession sera bientôt annoncée ? Où est-ce qu'on en est ?
C'est évidemment, dans le gouvernement d'entreprise, c'est au conseil d'administration que de trouver mon successeur. Je suis sûr qu'il s'y attelle. Je n'ai pas d'idée de savoir quand est-ce que mon successeur arrivera. Pour l'instant, je suis, comme vous pouvez imaginer, entièrement focalisé sur l'opérationnel.
Ça, c'est OK. Réponse officielle. Élément de langage, le directeur général d'Alstom. Merci Henri Poupart-Lafarge d'avoir accepté notre invitation.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
Sandrine Foulon, Madame Vieux-Boulot, ce matin vous aviez envie de revenir sur cette amende de 100 000 euros infligée à un grand magasin parisien qui avait dissimulé un système de vidéosurveillance. 100 000 euros, c'est beaucoup, hein, Sandrine. Pourquoi la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, s'est-elle montrée aussi sévère ?
Eh oui, on trouve de tout à la Samaritaine, y compris, et ça c'est moins bien, des caméras planquées dans les locaux de travail. Il y a 2 ans, un salarié a découvert le poteau rose dans l'une des réserves, 5 dispositifs espions maquillés en détecteurs de fumée et équipés de micros. Alors évidemment, cette décision de la CNIL ne révolutionne pas le droit. On le sait depuis longtemps, un employeur ne peut pas filmer ni enregistrer des salariés à leur insu, ni les piéger de manière déloyale. Et même quand des dispositifs sont installés de manière visible et permanente, pour des questions de sécurité, un guichet de banque par exemple, il faut que l'angle de vue respecte la vie privée des employés. C'est le principe général. La surveillance secrète n'est autorisée que dans des cas très restreints, s'il y a des soupçons légitimes de manquement grave. Dans une affaire de vol de marchandises dans un supermarché espagnol, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que des caméras cachées étaient recevables. Ça s'expliquait par l'ampleur des faits et par le nombre de salariés mise en cause.
Mais alors, là aussi, Sandrine, on peut imaginer que la Samaritaine voulait mettre un terme à des vols commis dans le magasin.
Oui, c'est ce que l'entreprise a plaidé, une recrudescence des vols pendant l'été. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un juste équilibre entre le but poursuivi et le respect de la vie privée. Il n'y avait aucune raison pour que ces caméras puissent capter les conversations privées des salariés. C'est excessif, sans compter que 2 cartes mémoire contenant des enregistrements vidéo et audio ont été conservées par des salariés lors du démontage des caméras. L'entreprise a contrevenu aux règles du RGPD, le Règlement général de la protection des données. Elle aurait dû inscrire des garanties nécessaires dans un registre des données, préciser que ce système aurait dû être temporaire, en informer le délégué à la protection des données, le DPO. Elle n'a rien fait de tout ça, ce qui lui a valu cette amende de 100 000 euros. Le montant n'est en fait pas si élevé. Ce type de sanction peut atteindre 20 millions d'euros ou 4% du total du chiffre d'affaires d'une entreprise. Mais la CNIL a surtout estimé que la gravité des manquements justifiait que la décision soit rendue publique. C'est ce qu'elle a fait la semaine dernière. La délibération restera sur le site de la Commission et de Légifrance pendant 2 ans. Ensuite, le nom de la Samaritaine n'apparaîtra plus.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end. On vous donne rendez-vous même jour, même heure la semaine prochaine. Je vous signale, juste après le journal, l'émission cinéma On aura tout vu de Christine Masson et Laurent Delmas autour du film Nouvelle Vague de Richard Linklater.